Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui, et il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondaient « Tu vois bien que la foule t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant que ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, les gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. En ces dimanches, depuis quelque temps, nous sommes dans le deuxième livret de l'évangile de saint Marc qui nous parle de Jésus qui est la parole. Et après avoir annoncé le royaume par des paraboles, on voit Jésus qui agit, qui par des actes de puissance nous fait comprendre la force de sa parole, la mission de sa parole. Et le nom du chef de synagogue, et Marc n'a pas l'habitude de donner les noms des gens, surtout des personnages secondaires, ici les deux femmes n'ont pas de nom, mais il donne celui de ce chef de synagogue, c'est Jaïr, c'est-à-dire il éclaire. Et bien que le Seigneur nous éclaire pour que aujourd'hui nous puissions entrer dans accueillir la force de la parole de l'Évangile. Dans les quatre actes de puissance, nous avons deux aujourd'hui, deux miracles. Les deux précédents étaient dimanche dernier, Jésus qui apaise la mer et entre deux qui était à lire pendant la semaine pour les devoirs de vacances, eh bien, nous avons lu le démoniaque de Gérasa. Jésus entre dans notre monde et il ne nous invite pas à imaginer que si nous prions ou à imaginer un monde où tout devrait être bien, où tout est bien, et comme si le mal, j'allais dire, quelque part n'était qu'un accident ou n'existait pas ou ne devrait pas exister. Jésus entre dans notre monde comme il est. Mais ce que Jésus fait par sa parole quand il apaise la tempête, quand il renvoie les démons dans le lac, eh bien, il met les choses en ordre. C'est cette parole créatrice, comme le suggère Jésus qui parle et qui apaise la mer, il remet les choses du chaos dans le chaos et il ordonne le monde. Sa parole est créatrice. Et si nous accueillons sa parole aujourd'hui, c'est aussi pour qu'elle crée en nous, qu'elle crée cet être de disciple, qu'elle crée et qu'elle fasse jaillir la vie. Car ce qu'il s'agit bien ici dans ces deux miracles complémentaires suivants, eh bien, c'est bien le jaillissement de la vie. Cette femme qui vient le toucher, qui a des pertes de sang depuis 12 ans, c'est bien la source de la vie qui est en cause. Elle est tellement en cause que son mal est tellement grand, et bien qu'elle est suivant les lois de pureté et suivant les lois de protection sanitaire que sont les lois de pureté, elle est exclue de la communauté. Elle est exclue aussi d'une vie de femme, d'épouse, et elle ne peut pas vivre cette vie normale. Elle est exclue. Et elle vient dans le secret de son cœur. Et de l'autre côté, c'est aussi la source de la vie, cette jeune fille de 12 ans qui arrive à l'âge de la puberté, qui va arriver à l'âge de l'épanouissement aussi, où elle peut donner la vie, eh bien, c'est dans notre monde. Vous voyez, les sources de la vie qui sont coupées, qui ne produisent pas, qui ne vont pas jusqu'au bout. Comme au fond de nos cœurs souvent, eh bien les sources de la vie, les sources de l'amour, les sources de la communion, les sources du bonheur, eh bien sont souvent taries et nous nous contentons et nous sommes errants quelque part dans ce monde, ou du moins essayant de nous accommoder avec les forces du mal et puis que le meilleur gagne. Ici nous avons, c'est le Père de cet enfant, nous avons cette femme qui vont vivre deux modes, avec lesquels nous allons regarder deux modes suivant lesquels nous nous approchons du Seigneur. Cette femme s'approche d'abord parce qu'elle a un grand désir, un grand espoir de guérison, mais elle s'approche dans le secret. Elle n'ose pas formuler sa prière. Elle n'ose pas, ou si elle s'approche de Jésus, ou si elle ose une prière dans le fond de son cœur, bien cachée de tous, eh bien, elle le fait un peu comme on fait un mauvais coup. Elle le fait en se présentant comme cela, mais en essayant de voler, de prendre, en voulant rester, en ne pensant pas, malgré son fol espoir, que le Seigneur peut vraiment, il y a juste cette pensée un peu encore peut-être magique, encore pas très bien développée. Et ce que Jésus va faire quand il va se retourner, quand il va sentir cette force qui sort de lui, il va regarder, il va se mettre à enquêter. Quand nous nous approchons, quand nous esquissons une prière, quand nous n'osons plus prier ensemble ou officiellement, mais que c'est simplement du fond de notre cœur, Jésus s'arrête, nous regarde, nous cherche du regard et veut quelque part libérer en nous la parole. Elle ne pouvait pas parler parce qu'elle était impure par ce flux de sang. Mais en même temps, Jésus, eh bien, justement, c'est le ministère de Jésus, il n'a pas peur. Elle aurait dû, justement, elle ne pouvait pas se présenter dans la foule, elle ne pouvait pas toucher Jésus, car elle risquait de le rendre impur. Comme nous, même si nous n'avons pas les lois de pureté du Lévitique, nous pensons que nous ne sommes pas dignes, que nous ne pouvons pas nous approcher du Seigneur, que ce n'est pas possible qu'il nous touche, que ce n'est pas possible qu'il nous guérisse, et nous limitons ça en mettant ces barrières, des barrières d'une pureté que nous nous inventons, qui sont moins claires que celles du Lévitique, mais qui sont tout autant fortes. Eh bien, Jésus n'a pas peur. Cette femme ne va pas le rendre impur. On n'avait pas le droit de toucher les choses impures, mais c'est Jésus qui touche et qui nous rend purs. Et voilà ce premier, et il la rend pure et il va la rendre à la parole, et il va la rendre, elle peut dire toute la vérité, et il va la rendre aussi à sa vie sociale. Et voilà ce que la rencontre de Jésus, comment Jésus va ordonner les choses en nous. Il nous remet dans la communion en nous ayant redonné accès à la parole, à la recherche et à l'expression de la vérité. Et c'est ce contact avec le Seigneur qui nous purifie. Demandons que nous soyons éclairés, que vienne comme une lumière cette force de Jésus qui nous appelle à sortir de nos ténèbres, à sortir de nos lieux où nous avons comme coupé la source de la vie parce que trop enfermés dans nos possibilités, dans nos impossibilités de vivre et d'être heureux. Et puis Jésus continue son chemin. Et voici que nous allons avoir avec ce chef de synagogue, eh bien, nous allons avoir une autre attitude dans laquelle nous nous trouvons très souvent. Les gens de l'extérieur viennent, non, c'est pas la peine de déranger le maître. Et puis on se moque de lui. Très souvent, eh bien, que ce soit par les gens qui nous entourent au travail, dans la famille, que ce soit par des voix intérieures, des raisonnements que nous avons entendus, non, c'est trop bête, je ne vais pas prier, c'est pas possible, de toute façon le Seigneur est impuissant, il n'entend pas, etc. Et nous n'accédons pas non plus à la prière, ou nous ne voulons pas, ou nous n'osons pas. Et voici ce que Jésus répond, nous répond. Ne crains pas, crois seulement. Ce crois veut dire ouvre ton cœur. Ce crois veut dire regarde la parole, accueille cette œuvre de Dieu qui veut remettre de l'ordre et te faire dans ta vie et te faire accéder aux sources de la vie. Et Jésus va continuer. Et Jésus, d'une manière toute simple, entre, s'étonne, pourquoi ces agitations, pourquoi ces pleurs, et voit la démesure dans laquelle les gens sont rentrés, non pas la démesure des coutumes, mais par rapport à son mode de regarder. Tu t'inquiètes, tu m'as appelé, je viens. Et Jésus entre, et sans prononcer de prière, sans faire de grands gestes, eh bien, il ordonne à cette jeune fille de se lever, de s'éveiller, de sortir de ce sommeil de la mort. Et il nous appelle aussi à sortir du sommeil de nos morts. Il nous appelle à nous éveiller. On nous signale dans ce texte qu'avec les parents, seuls sont invités Pierre, Jacques et Jean. que l'on retrouvera ici en trinôme uniquement à la transfiguration et puis aussi à la prière de Jésus précédant sa passion, inaugurant sa passion. Et il est demandé aussi aux disciples de ne pas, dans la suite du texte, le verset suivant, eh bien, il est demandé aux disciples de ne pas annoncer cela à tout le monde. S'il est ressuscité des morts et si tout le monde commençait à pleurer, ça va se faire connaître. Alors, est-ce que c'est une incohérence du texte? Non, c'est peut-être que Jésus veut nous attirer l'attention. Comme il dira à la transfiguration, eh bien, ne dites pas cet événement avant que je sois relevé d'entre les morts. Car effectivement, et c'est la lumière que Jésus veut nous donner, Jésus ici fait ce geste de puissance pour nous indiquer ce que saint Paul nous le dira, il a triomphé du mal, il a triomphé de manière définitive du péché et de la mort. Mais nous ne pourrons le comprendre qu'en regardant la résurrection du Seigneur. Et c'est pour nous cette importance de fêter le dimanche, de fêter ce dimanche, de fêter tous les dimanches. Et c'est pour nous l'importance de fêter chaque Eucharistie qui est ce rappel de la résurrection de Jésus. Car nous qui arrivons comme cette femme, comme ce père de famille, qui arrivons coupés des sources de la vie, le Seigneur nous demande de nous voir dans sa résurrection, de laisser, comme disait encore avec le nom de Jaïr, mais l'oraison d'aujourd'hui, notre vie s'illuminer, notre vie être mise sous son pouvoir, de tout ce qui est mort en nous, de le déposer dans la mort de Jésus pour ressusciter avec lui. Nous sommes appelés à accueillir cette parole, à accueillir ce regard de Jésus sur nous, pour nous rappeler que dans cette résurrection, notre vie est cachée dans le Christ. Elle est cachée en Dieu avec le Christ, comme dit encore saint Paul. Eh bien, soyons sûrs, comme le rappelait le livre de la sagesse, ce n'est pas Dieu qui a fait la mort. Ce n'est pas Dieu qui veut que notre vie s'étiole et ne corresponde à rien. Il veut au contraire la fonder. Eh bien, demandons jour après jour de vivre notre vie dans le mystère de Jésus pour que toutes nos morts, eh bien, soient remises à leur place et que la vie qu'il met en nous puisse nous réjouir et éclairer un grand nombre. Amen.